Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 et c'est le retour des Canu Info confinés du lundi soir. Et oui, on a dû préparer cette émission à distance. On va commencer comme d'habitude avec la rubrique des brèves, puis dans la rubrique internationale, on parlera de la Pologne qui attaque encore le droit des femmes et de la riposte qui s'organise, puis de la Grèce avec l'évacuation du camp de migrants autogéré de PICPA, et enfin de la Bolivie, où on se pose la question du retour du socialisme.
En national, nous parlerons de la législation de guerre qui est mise en place par le gouvernement. Nous enchaînerons ensuite sur un sujet qui parle du regain de l'islamophobie en France, et nous finirons avec un thème, un flic mis en examen pour le meurtre d'Olivio Gomez.
Tandis qu'au local, on parlera des fachos turcs qui ont fait la chasse aux Arméniens à Dessine, et on parlera aussi de l'expulsion du collège Maurice-Sève. On aura une petite citation de la semaine et on finira par le dossier d'aujourd'hui qui consiste en une interview de la famille Didier qui est mort en prison. Et c'est parti pour les brèves.
Après les masques, les gants, les surblouses, c'est maintenant le vaccin contre la grippe qui fait l'objet d'une pénurie en pleine deuxième vague de Covid. Agrippez-vous bien, car selon l'Union syndicale des pharmaciens, 70% des pharmacies n'ont déjà plus de stock. La déclaration de Macron affirmant que la France ne renoncerait pas aux caricatures après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine a provoqué des réactions hostiles dans plusieurs pays musulmans. Le président turc Erdogan, par exemple, a jugé que les musulmans européens étaient victimes d'une campagne de lynchage. Au Bangladesh, 40 000 personnes ont manifesté mardi en appelant au boycott des produits français, tandis qu'un ancien premier ministre malaisien a déclaré, je cite, que les musulmans avaient le droit de tuer des millions de Français. Sympa. Nouveau défi donc pour l'apaisement des relations internationales. Nos diplomates ont du pain sur la planche. Un hommage à Samuel Paty dans les établissements scolaires est imposé à tous et toutes les élèves à la rentrée. Au menu, une séquence pédagogique suivie d'une lecture de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès, et enfin, une minute de silence. Vous reprendrez bien une bonne leçon de républicanisme réchauffée à la sauce Blanquer, non ? Ce rôle moralisateur et paternaliste que le gouvernement veut faire jouer aux enseignants est le pendant exact de sa politique de flicage qui invitait déjà les profs à faire des rapports sur les élèves sur la base d'un simple soupçon de radicalisation. La crise économique continue. Chez Sodexo, c'est l'hécatombe, la suppression annoncée de 2083 postes. De son côté, le groupe de prêt à porter Celio veut fermer plus de 100 boutiques, entraînant la suppression de 383 postes. Dans le même élan, General Electric supprime 1600 emplois en France. Mais ne vous inquiétez pas, Jean Castex pense à tout et nous a concocté un petit plan de lutte contre la pauvreté chiffré à 700 millions d'euros. Vous trouvez ça beaucoup ? Oh, pour vous rassurer, on vous rappelle que l'État a déboursé pas moins de 100 milliards d'euros pour soutenir les entreprises privées en septembre. Quelques nouvelles réjouissantes quand même, avec l'annonce d'une grève unitaire le 19 novembre à la RATP, appelée par les 5 syndicats. Une première mobilisation contre la loi LOM, l'OM, qui organise les modalités de transfert des personnels de la RATP vers des structures privées. De quoi briser le train-train quotidien. On signale également l'occupation d'un magasin Biocop samedi 24 octobre dernier pour l'amélioration des conditions de travail.
Et on rajoute que des grèves de la faim ont commencé dans les centres de rétention de Marseille et Toulouse, notamment à l'annonce de la fermeture des frontières liée au nouveau confinement. Il est inadmissible que de garder enfermés des êtres humains pour pouvoir les expulser soit encore considéré comme indispensable.
À l'international, on commence par l'Argentine où 1400 familles ont été violemment expulsées par la police du terrain vague qu'elles occupaient à Guernica dans la province de Buenos Aires. Plus de 4000 flics mobilisés pour détruire le campement et ses cabanes, laissant des centaines de personnes sans aucun logement, le tout au profit d'un projet d'urbanisme de quartier privé. Au Chili, suite à un mouvement qui dure maintenant depuis plus d'un an, on fête l'abandon de la constitution adoptée sous la dictature de Pinochet en 1980. Et oui, 78% de la population a voté pour que le Chili se dote d'une nouvelle constitution. En Biélorussie maintenant, une nouvelle grève générale a débuté devant le refus de Loukachenko de démissionner. Pas moins de 100 000 personnes se sont rassemblées dimanche dernier à Minsk.
International.
Et on commence donc la rubrique internationale avec la Pologne.
En Pologne, les catholiques fondamentalistes pro-vie multiplient depuis 2016 les offensives contre le droit à l'avortement. Sachant qu'ils peuvent compter sur le parti nationaliste et ultra-conservateur PIS, Droit et Justice, qui est de nouveau au pouvoir depuis 2015 et a été réélu récemment. Le droit à l'avortement polonais est pourtant déjà l'un des plus restrictifs en Europe, l'avortement n'étant autorisé qu'en cas de viol, d'inceste, de danger pour la vie de la mère ou de malformation irréversible du fœtus, depuis une loi de 1993. D'après les données officielles, le pays de 38 millions d'habitants a enregistré en 2019 seulement 1100 avortements, dont 98% étaient autorisés pour malformation du fœtus. Selon des ONG, le nombre d'IVG pratiqués clandestinement en Pologne ou dans des cliniques étrangères pourrait atteindre près de 200 000 par an. Ce sont déjà 3 tentatives de restreindre encore davantage ce droit à l'avortement par des propositions de loi en 2016, 2018 et en avril 2020 qui ont été mises en échec par les mobilisations féministes en Pologne. Lassés des voix parlementaires, les réactionnaires ont trouvé en pleine deuxième vague de Covid-19 un mode d'action beaucoup plus efficace. Et c'est finalement le tribunal constitutionnel, noyauté par des membres du parti Droit et Justice, qui déclare dans un arrêt du 22 octobre 2020 l'avortement pour malformation irréversible du fœtus comme contraire à la Constitution. Cette décision rend d'un coup et de manière a priori définitive l'avortement pour malformation illégal. Et bien sûr, le gouvernement s'est empressé d'approuver publiquement cette décision du tribunal. C'était sans doute sans compter, une fois de plus, sur la force de la mobilisation. Depuis ce jugement, et malgré les mesures liées à l'épidémie de Covid-19, qui interdisent les regroupements de plus de 5 personnes, des manifestations ont lieu tous les jours en Pologne. Et la contestation ne se limite pas à la capitale, depuis longtemps hostile au gouvernement du Parti National Conservateur, PIS. Dans les grandes villes, les petites communes et même les campagnes des Basses-Carpates, région où le PIS remporte toutes les élections et où l'attachement à l'Église est particulièrement fort, les dernières manifestations en défense des droits des femmes sont d'une ampleur jamais vue. Dans le bastion du PIS de Slavova Vola, des milliers de gens sont descendus dans la rue. Le parti Droit et Justice a voulu à tout prix se mettre dans la poche la frange la plus conservatrice de son électorat, et il va peut-être bientôt s'en mordre les doigts. Plusieurs sondages récents rapportent que si un cinquième seulement des Polonais sont favorables à une libéralisation complète de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, ils sont encore moins nombreux, 12%, à vouloir durcir la législation, la majorité étant donc attachée au statu quo. Les mobilisations dans la rue sont de plus en plus massives et le mouvement s'étend à d'autres revendications. Les manifestants réclament la démission du gouvernement avec le slogan « C'est la guerre », devenu avec les éclairs rouges un symbole du mouvement. Une guerre contre le gouvernement, mais aussi contre l'institution religieuse catholique, qui est particulièrement puissante. Dans tout le pays, des églises ont été prises d'assaut par les manifestants, graffées, des messes interrompues, envahies, du jamais vu dans ce pays où la population est très majoritairement et traditionnellement catholique. Mardi 27 octobre, Jaroslav Kaczynski, vice-premier ministre et président du parti Droit et Justice, a d'ailleurs appelé ses partisans à défendre à tout prix les églises polonaises. Message bien reçu par les ministres nationalistes qui ont annoncé la mobilisation de 10 000 hommes à travers le pays, dont la moitié entraînés aux techniques de combat. Mercredi 28 octobre, les femmes polonaises appelaient à une grève de la production et de la reproduction, suivie par plus de 500 000 personnes. Vendredi 30, une énorme manifestation était appelée à Varsovie, qui a rassemblé environ 100 000 personnes. En plus de ces appels aux nationalistes, bien présents pour intimider et attaquer physiquement les manifestants, le gouvernement a mobilisé l'armée en appui de la police, et une cinquantaine de fourgons protégeaient le domicile de Jaroslav Kaczynski lorsque les manifestants ont décidé d'aller y faire un tour. Pour décrire un peu l'ambiance, pendant la manif, une centaine de fondamentalistes catholiques est restée sur un parvis, encadrée par des milices nationalistes et protégée des manifestants par deux cordons de policiers et militaires. Ils priaient par haut-parleur, chapelet et étendard chrétien à la main. À chaque passage de groupes de manifestants féministes, des gémissements de nourrissons étaient diffusés par haut-parleur. Quelques heures avant le début de la manifestation dans la capitale, le président a présenté un projet de loi visant à un nouveau compromis, qui sera soumis d'ici quelques jours au Parlement. Il consiste à différencier les formes de pathologie de fœtus qui autorisent ou non à l'IVG, distinguant les maladies graves et incurables d'autres formes de handicap comme la trisomie. Mais ces manœuvres ne semblent pas avoir beaucoup d'effet sur la volonté des manifestants à en découdre avec le gouvernement et l'ensemble des forces réactionnaires et conservatrices qui dirigent le pays. Comme le déclarait l'une des organisatrices de la manifestation nationale des femmes polonaises, ce n'est pas une protestation qui va s'épuiser, c'est une révolution. En solidarité avec les mouvements féministes et progressistes polonais, on écoute tout de suite un de leurs hymnes, « Je suis debout », une vidéo d'une chorégraphie de lutte signée par la chorale des sorcières. On vient d'écouter « Je suis debout » par la chorale des sorcières, une vidéo qui a été mise en ligne pendant le mouvement actuellement en Pologne contre les attaques sur le droit à l'avortement. Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi. Et on va maintenant parler de la Grèce avec l'évacuation du camp de migrants autogéré de Pikpa.
Oui, cela faisait plusieurs semaines que le camp de migrants de Pikpa en Grèce était menacé d'expulsion et c'est chose faite depuis le 30 octobre. Une expulsion traumatisante pour la centaine d'habitants du camp puisqu'elle s'est faite sans notice préalable au petit matin. Ce sont la police et la police anti-émeute qui ont tiré les habitants de leur lit, sans explication sur leur lieu de déplacement et en empêchant l'accès au camp aux bénévoles et avocats qui demandaient à être témoins du démantèlement. Aucun document prouvant un ordre d'expulsion ne leur a d'ailleurs été fourni. Le camp de Pikpa en Grèce était un camp qualifié d'autogéré, surtout par opposition au camp ultra-contrôlé comme l'était celui de Moria, et comme le sera d'autant plus son remplaçant. C'est-à-dire que les habitants n'avaient pas de couvre-feu, ne subissaient pas un contrôle de leur possession, et étaient libres de leurs allées et venues, ce qui finalement est bien la moindre des choses. Ce camp à taille humaine, mais encore une fois c'est relatif, c'est à taille humaine en comparaison des camps comme Moria qui dépassaient le millier d'habitants. Ce camp a existé depuis 2012 et avait été légalisé par l'ONG Lesbos Solidarity, qui avait obtenu en 2015 l'autorisation du ministère du Travail d'utiliser le terrain qui lui appartient. L'ONG réceptionnait d'ailleurs aussi les dons destinés aux habitants. L'expulsion est pourtant justifiée par l'illégalité supposée du camp, ce qui est faux. Lesbos Solidarity rappelle d'ailleurs que le ministère du Travail, le ministère des Migrations ainsi que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont plusieurs fois dirigé des migrants vers ce camp. Alors pourquoi, alors que des milliers de migrants en Grèce sont à la rue ou entassés dans des camps dans des conditions inhumaines, comme c'était le cas au camp de Moria avant l'incendie et comme c'est le cas en ce moment dans le camp de Fortune qui le remplace? C'est tout simplement parce que la priorité du gouvernement grec, avec l'aval de toute l'Union européenne qui laisse faire et n'accueille pas plus, c'est de contrôler la migration et donc de contrôler, ficher et enfermer des êtres humains pour les trier et mieux les expulser. Et pour cela, le gouvernement est prêt à leur retirer les droits humains les plus basiques. Au 15 octobre, ce sont 7400 personnes qui étaient logées dans le camp de Fortune qui remplaçait la Moria, sur un terrain inondable, sans accès à l'eau courante ni à l'électricité, dans des tentes qui ne supportent pas les averses, et ce depuis 2 mois. Ce camp devait être temporaire, mais ce n'est que pour l'été 2021 que le ministre des Migrations, Notis Mitarashi, a prévu la fin de la construction d'un nouveau camp en dur, et ce sera un camp fermé dont l'entrée sera contrôlée et équipée d'une double clôture, s'est-il vanté. Alors qu'il y a 2 semaines avait lieu le pire naufrage de l'année où 140 personnes se sont noyées en quittant le Sénégal, on se rend bien compte que toutes les vies ne sont pas traitées comme ayant la même valeur. On ne peut que réclamer la fin de ce racisme qui donne aux Européens le droit d'aller et venir à leur guise et le retire à des milliards de personnes à cause de leur pays de naissance et de leurs conditions financières. On enchaîne avec la Bolivie.
Le 19 octobre dernier, le parti d'Evo Morales, le mouvement vers le socialisme, le MAS, a remporté les élections présidentielles dès le premier tour avec plus de 50% des voix. Pour comprendre ce que cette victoire représente dans le rapport de force politique en Bolivie, revenons rapidement sur les événements des dernières décennies. Entre 2006 et 2019, la présidence de Morales avait, pour la première fois dans le pays, en partie fragilisé la logique néolibérale dictée par les institutions financières internationales qui écrasaient la Bolivie depuis les années 80. S'opposant à l'oligarchie économique en place, Morales avait déployé des mesures fortes dès le début de son mandat. Nationalisation des hydrocarbures, renégociation de tous les contrats avec les entreprises étrangères, lancement de travaux d'infrastructures pour désenclaver les zones les plus pauvres, mise en place de mesures environnementales et sociales comme la Renta Dignidad, une retraite garantie pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou la création d'un système de santé gratuit, etc. Ces mesures ont eu un effet immédiat sur le niveau de vie de la population et surtout des plus pauvres. Ainsi, les salaires ont augmenté et le taux de pauvreté a chuté de 38 à 15%. Un bilan plutôt honorable donc, même s'il n'a pas aboli le capitalisme et qu'il s'est accommodé d'une logique de développement productiviste. Pendant ce temps-là, en bon ennemi de classe de cette politique socialiste, les élites concentrées dans la Media Luna, la demi-lune, c'est-à-dire les départements de l'Est bolivien où l'on trouve une grande partie des richesses gazières et les grands propriétaires liés à l'agro-business, pendant ce temps-là donc, cette oligarchie a exprimé son opposition par des revendications régionales de type séparatiste qui ont été surtout portées par le comité civique de Santa Cruz. Lorsque Morales veut briguer un troisième mandat en 2016, sa popularité n'est déjà plus tout à fait acquise. D'un côté, une partie du mouvement indigéniste et des étudiants est déçue par la politique extractiviste menée qui va à l'encontre des droits reconnus à la Pachamama, à la terre-mère. De l'autre, l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie urbaine qui s'est enrichie grâce aux mesures sociales de redistribution des richesses veut de plus en plus d'avantages et tourne petit à petit le dos à l'État interventionniste pour renforcer les rangs de la droite. Ces oppositions se sont radicalisées jusqu'à ce que la frange allant de la droite à l'extrême droite organise un coup d'État en 2019 avec l'appui de l'état-major et de la police. A l'époque, les médias ont décrit ce coup d'État comme une démission anticipée de Morales qui ferait suite à une soi-disant fraude électorale. Cette remise en question de la légitimité du scrutin représentait en réalité une véritable offensive menée à la fois par la droite bolivienne, représentée par Carlos Mesa, et par l'extrême droite raciste et fondamentaliste, conduite par un certain Fernando Camacho, le bloc étant bien sûr soutenu à l'extérieur par Trump et Bolsonaro. Cette fiction de la fraude électorale, massivement relayée par la presse occidentale, nous la devons surtout à l'OEA, l'Organisation des États américains, une organisation multilatérale inféodée aux intérêts de Washington qui a diffusé de fausses rumeurs pour étayer son invention de fraude massive. Le bilan social et économique de ce gouvernement de facto est catastrophique. 21 manifestants tués qui ont soutenu Morales au lendemain du coup d'État. D'autre plus, les putschistes ont renforcé la répression contre les peuples indigènes, mais aussi contre les dirigeants syndicaux, notamment ceux de la centrale ouvrière bolivienne, la COB. Les milices paramilitaires, quant à elles, avaient les mains libres pour faire la chasse aux opposants. D'autre part, ce gouvernement s'est illustré par une gestion autoritaire et liberticide de la pandémie des millions de travailleurs informels, qui représentent 60% du PIB et 70% des emplois étaient privés de moyens de subsistance, ce qui a entraîné des micro-famines dans un contexte de canicule, de chute de la croissance et de hausse du chômage. D'ailleurs, la colère des Boliviens s'était déjà exprimée cet été à travers d'immenses manifestations contre la tentative des putschistes de rester au pouvoir en reportant les élections. Bref, foncièrement anti-ouvrier, anti-communiste et raciste, le gouvernement autoproclamé représentait sans aucun doute possible les intérêts du patronat. Ils ont perdu les élections, bon débarras. Le retour du MAS au pouvoir signe ainsi une véritable victoire contre le néolibéralisme de droite. Mais reste à voir si le MAS, qui ne se présente pas comme un parti traditionnel, mais comme une fédération de forces issues de mouvements sociaux, où se côtoient indigénisme, marxisme, anarchisme, syndicalisme et aussi social-démocratie, reste à voir donc si le MAS va réussir à répondre aux attentes de ses électeurs. Car par le passé, il a pu se contenter d'une stratégie de conciliation entre les intérêts de la classe populaire et ceux des grands propriétaires, surtout agricoles. Il a également pu appeler à modérer les ardeurs des contestataires en tentant d'instaurer une sorte de dialogue avec la droite, espérant que cela n'était qu'une stratégie pour reprendre la main et que les revendications principales autour de la notion de buen vivir, du bien vivre qui exige une sortie définitive du mode de production capitaliste, vont enfin être satisfaites avec ou sans Morales. En tout cas, force et soutien au peuple bolivien. Et avant de passer au national, nous écoutons un morceau du groupe bolivien Ucamao Ike, qui vient de la ville d'El Alto, avec son titre « America Latina ».
Nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cae en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente y general. Todos los países imperialistas se hacen manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar. Han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando. Hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la superexplotación. Una gran polémica, América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica.
Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Bah! Está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Andina. Esto es América Latina, esto es América Latina, gran polémica. Esto es América Latina, 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 esto es América Latina.
Toujours sur le Canu Info du lundi 2 novembre. On vient d'écouter le groupe Ukamao Ike avec son morceau America Latina.
National.
Et on passe au national pour parler des perspectives en France en matière de législation.
Une législation de guerre, c'est peut-être ce qui nous attend. Alors en 5 ans, c'est pourtant déjà mangé. Hein. 4 états d'urgence, plusieurs plans Vigipirate maximum, écarlate, une intégration à la Constitution de mesures liberticides qui dépendaient auparavant uniquement de l'état d'urgence, une avalanche de lois antiterroristes, des lois anticasseurs, etc. Bref, en 5 ans, on a bien mangé. Mais non, non, c'est insuffisant. Depuis le crime atroce contre Samuel Paty, il y a quelques semaines, et plus récemment les assassinats non moins terribles à Nice, eh bien de l'extrême droite, de Manuel Valls, en passant par l'extrême droite, de membres du gouvernement, de députés, d'éditorialistes de CNews ou de BFM TV, des Républicains, jusqu'à l'extrême droite de Marine Le Pen, chacun a sa petite idée de comment durcir tout ça, notamment en mettant en place une législation de guerre. Voici une petite liste non exhaustible des idées de ces petits fanfarons. D'abord le duo Valls et Morano sur le plateau de CNews prônent eux, une fois n'est pas coutume, la déchéance de nationalité pour les binationaux. Guillaume Bigot, lui l'éditorialiste de CNews, en face de Morano, parle de rétablir le service militaire, voire même de rétablir le bagne. Oui, le bagne. Alors attention, pas à Cayenne, non, aux îles Kerguelen, puisqu'elles sont à une latitude, je cite, « telle que les gens peuvent survivre ». Réponse de Morano, la rétention de sûreté, oui, mais le bagne, c'est impossible. Malheureusement, doit-elle se dire. Alors c'est quoi la rétention de sûreté? Dupont-Aignan, lui aussi, y est favorable d'ailleurs sur BFM TV, puisqu'il réclame le rétablissement de la Cour de sûreté de l'État. La Cour de sûreté de l'État, c'était une juridiction d'exception créée en 63 et abolie en 81, qui permettait d'enfermer à tour de bras toute personne accusée, ou bien souvent juste susceptible de, porter atteinte à la sûreté de l'État. Une juridiction d'exception pour enfermer des militants politiques. Dans les années 70, par exemple, beaucoup de Mao, Anar, communistes libertaires, autres ultra-gauchistes, ont ainsi régulièrement fait des séjours en prison pour pas grand-chose, comme par exemple écrire dans des revues. En gros, aujourd'hui, ça permettrait d'enfermer tranquille tous les fichés S, juste parce qu'ils sont fichés S, et autres gauchistes qui se permettent d'écrire ce qu'ils pensent. Revenons à Valls. Lui considère qu'il faut peut-être sortir du droit européen en situation exceptionnelle en faisant évoluer la Constitution. Comprenez, ne pas se laisser emmerder par ces gauchistes de la Cour européenne des droits de l'homme. Même si on ne peut pas la considérer comme ultra-coercitive, elle condamne quand même régulièrement la France sur les conditions de vie dans les centres de rétention ou dans les prisons, par exemple. Et ça, bah, Manuel Valls, ça le gave grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pascal Pro sur CNews, toujours. Eh bien, visiblement, ok, avec Valls, il se considère que nous sommes ligotés par notre droit de l'homisme. En face de lui, Jean Messier, membre du bureau du RN, opine du chef et déclare « Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas contents en France, y restent parce que l'État-providence fait qu'ils peuvent vivre de manière confortable. » Morano, toujours dans les bons coups, également présente, applaudit. Comprenez, il faut supprimer les allocations et les aides financières attribuées aux étrangers. Et ça d'ailleurs pas uniquement dans le cadre d'une législation de guerre, si possible. C'est vrai que les sans-papiers des demandeurs d'asile, mais qu'est-ce qu'ils se gavent ? Alors, autre idée, Florian Bachelier, député LREM sur CNews toujours, pénaliser les propos et les pratiques anti-françaises. Et quel est son exemple à ce bonhomme ? Eh bien, la famille Traoré, ben tiens, c'est vrai qu'ils n'ont pas pris suffisamment cher dans la famille Traoré. Un tué par la police, de multiples incarcérations en prison, de multiples condamnations. Très bon exemple, Florian Bachelier, merci. Alors, législation de guerre, ça pourrait dire déchéance de nationalité, rétablissement du service militaire, du bagne, de la cour de sûreté de l'État, enfermer tous les fichiers sans jugement, sortir du droit européen pour ne plus se faire emmerder par la CEDH, supprimer les aides aux étrangers, les allocs aux mauvais parents, pénaliser les propos ou les pratiques anti-françaises, entre autres choses, ça vend du rêve.
Toujours sur le même thème, le regain de l'islamophobie et puis le racisme d'État.
Le projet de loi sur le séparatisme représentait déjà un cap dans l'islamophobie décomplexée de l'État. Mais depuis la série d'attentats abjects à l'encontre de Samuel Paty, des trois fidèles à Nice et d'un prêtre orthodoxe à Lyon, l'instrumentalisation continue et atteint un point de non-retour qui aura des conséquences irréparables. En effet, la stigmatisation de tous les musulmans a franchi un nouveau seuil. La liste des dernières actions du gouvernement va dans ce sens. Que ce soit les discours nauséabonds de Darmanin ou de Blanquer, la dissolution du CCIF, du collectif contre l'islamophobie en France, celle de l'ONG Baraka City, la fermeture de la mosquée de Pantin, les multiples perquisitions qui visent à intimider les musulmans, mais aussi les arrestations préventives ou l'éviction du président de l'Observatoire de la laïcité, jugé trop complaisant. Bref, toutes ces paroles et tous ces actes relève d'un racisme d'État pleinement assumé qui récupère à son compte et sans honte les mots d'ordre de l'extrême droite. Ce renforcement des dispositifs islamophobes s'inscrit également dans une surenchère répressive et sécuritaire qui superpose allègrement justification sanitaire, menaces antiterroristes et républicanisme discriminant. Alors que la France était secouée depuis l'été dernier, par un renouveau du mouvement antiraciste et que les violences policières faisaient enfin l'objet d'une dénonciation massive, la seule réponse de Macron réside dans le verrouillage médiatico-policier des contestations. Le gouvernement utilise ainsi sciemment l'argumentaire islamophobe de la laïcité pour s'attaquer à certains droits démocratiques comme le droit d'association, et il en profite pour faire oublier la gestion calamiteuse de la pandémie tout en poursuivant son œuvre de casse sociale. Et peu importe si sa tactique encourage l'extrême droite raciste à passer à l'action. Dégradation des mosquées à Lyon, à Bordeaux, à Béziers, agression armée contre des femmes voilées près de la Tour Eiffel, tentative d'assassinat à Avignon, manifestation tolérée à Nice, appel à décapiter la République à Paris et j'en passe. Autant d'événements qui signalent une hyperactivité du réseau de la fachosphère. Excités par le sceau islamophobe de l'État, les fachos intensifient leur action et franchement, ça craint. À cela s'ajoute la rengaine de l'islamo-gauchisme. Rendre complice de terrorisme toute critique antiraciste permet au gouvernement de disqualifier d'emblée toute opposition. Ça lui permet aussi de cacher les liens réels et perturbants qui existent entre l'extrême droite et l'islam radical. C'est donc au nom d'une unité nationale fantasmée construite par des présupposés racistes que Blanquer et Darmanin se permettent d'attaquer toutes ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec eux, que ce soit l'UNEF, la France Insoumise, des universitaires, des organisations, des associations. La stratégie du gouvernement est sale, très sale. Profiter de l'émotion et de la colère légitime pour les détourner au profit d'une stigmatisation généralisée de toute la communauté musulmane, c'est non seulement indécent, mais c'est aussi très très dangereux. C'est un boulevard pour le fanatisme religieux qui voudra contre-attaquer, mais c'est aussi un boulevard pour le nationalisme et le racisme de l'extrême droite qui se sent ainsi légitimé dans ses positions et donc dans ses modes d'action. L'islamophobie, telle qu'elle s'exprime à travers l'État en ce moment, c'est pas une simple stratégie pour diviser le camp des exploités. Avec elle, c'est tout l'héritage néocolonialiste et son lot de discrimination systématique qui est réactivé. Avec elle, c'est la construction d'un nationalisme identitaire fondé sur l'exclusion qui est promue. Avec elle, c'est encore un racisme structurel qui s'exprime, un racisme qui n'est pas une déviance de l'État, mais sa norme. Car en ce moment, c'est sur le dénigrement d'une communauté que l'État suscite un désir d'appartenance à sa pseudo-nation. C'est au nom du combat contre l'islamisme que l'État affine ses politiques de surveillance, de profilage, de sécurité. C'est au nom de la laïcité qu'il crée un régime d'exception qui concerne tous les musulmans. L'invention d'un problème musulman en France, la désignation d'un corps étranger incompatible avec les soi-disant valeurs de la République est donc la fiction politique que l'État s'efforce à nous faire avaler jour après jour pour justifier sa légitimité réactionnaire et pour invisibiliser les problèmes sociaux.
Et enfin, en national, on termine avec un flic mis en examen pour le meurtre d'Olivio Gomez.
Ouais, incroyable mais vrai, tellement ça n'arrive jamais. Un flic est mis en examen pour homicide volontaire pour avoir tué par 3 balles dans le corps Olivio Gomez, père de famille de 28 ans, dans la nuit du 16 au 17 octobre. Bien sûr, un homme noir et un policier blanc. Mais cette qualification rarissime dans ce genre de cas n'était pourtant pas gagnée, puisque dès le départ, les journalistes de préfecture ont relayé la parole des flics et de la préf quelques heures après le décès d'Olivio Gomez. Je cite, un chauffard abattu par les policiers, une folle course-poursuite et donc légitime défense de la part du policier face à un conducteur qui voulait foncer sur le flic. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est déroulé. Petit résumé, ce soir-là, Olivio Gomez rejoint des potes à lui à Paris, dernière soirée avant le couvre-feu. 2 potes sont avec lui, on les nommera Nabil et Sofiane. Ils se baladent en voiture. Sur le retour, il est plus de minuit, donc ils sont dans une illégalité totale, hein, puisque c'est le couvre-feu. Une voiture de la BAC les repère sur le périphérique, soi-disant parce que la voiture fait des manœuvres erratiques. Nabil va expliquer par la suite que ces mouvements étaient dus à un problème de parallélisme du véhicule, ce qui est tout à fait possible. Bref, c'est surtout à cause de leur tête que la BAC les suit. C'est là que les versions commencent à diverger d'ailleurs. La BAC dit qu'elle s'est manifestée très tôt sur le périphérique et que la voiture a refusé de s'arrêter et donc une course-poursuite a commencé. Nabil et Sofiane démentent formellement. Ils ne se sont rendus compte de la présence de la voiture de la BAC que lorsque ces derniers ont mis les gyrophares, soit très peu de temps avant la sortie pour Poissy. Olivio Gomez aurait alors mis ses feux de détresse pour signifier à la BAC qu'il était disposé à s'arrêter. Mieux, il leur a même dit... quand ils se sont mis à son niveau, qu'il sortait à la prochaine sortie. Ce qu'il avait en tête à ce moment, il faut le dire, c'était de se rapprocher au maximum de chez lui pour que sa femme puisse avoir accès à la voiture le lendemain. Olivio Gomez n'avait pas de permis, il se doutait bien qu'il allait se faire interpeller. Mais à aucun moment il n'a pris la fuite. Les derniers éléments de l'enquête prouvent qu'il n'a jamais dépassé les limitations de vitesse, soit entre 80 et 110 km/h au maximum à chaque fois. D'après Nabil et Sofiane, je cite, « on pensait vraiment que la police avait compris nos signaux et qu'ils allaient nous interpeller dans le quartier ». Du coup, la soi-disant tentative de fuite interroge. La voiture était immatriculée au nom de la femme d'Olivio et il comptait ramener la police en bas de chez lui. Bref, les deux véhicules se suivent jusqu'à ce qu'Olivio se gare. Là, la voiture de la BAC percute le véhicule d'Olivio, lui bloquant la porte conducteur. Les BACeux sortent alors de leur véhicule, pointent leurs armes. À aucun moment, ils ne se positionnent devant le véhicule d'Olivio, qui pendant ce temps tente de faire avancer son véhicule pour pouvoir en sortir, puisque c'est ce que lui demandent les BACeux. 3 coups de feu sont alors tirés sur le côté gauche du véhicule, confirmés par l'étude balistique. Ces 3 balles touchent Olivio sur le côté, qui meurt peu de temps après. Sofiane et Nabil, eux, sont bien sûr placés en garde à vue, c'est normal, mais ils sont tous les deux exactement sur la même version et l'enquête prouve à chaque fois par la suite qu'ils ne mentent pas. C'est donc les flics qui mentent, comme d'habitude. Alors bien sûr, c'est très bien que ce flic soit inculpé d'homicide volontaire, mais sauf que lui, eh ben, il n'est pas placé en détention provisoire. Il est chez lui, tranquille, sous contrôle judiciaire, à attendre le procès, pendant que la famille et les proches d'Olivio Gomez attendent que ce policier soit condamné, ce qui est encore loin d'être gagné.
Et on finit cette rubrique nationale par une petite pause musicale avec un morceau de Kerry James de 2016, mais dont les paroles sont toujours autant d'actualité. Vivre ou mourir ensemble de Kerry James. Vous êtes bien sur le 102.2 Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi.
Naturel d'avoir peur, de là naît le courage. Comment rêver en couleur quand le futur n'annonce que l'orage? Le bonheur que l'on bricole disparaît dans la grisaille, que nos espoirs s'isolent de la folie qui les cisaille. Ensanglantés d'amertume, des journées de ténèbres aux aurores teintées de brume, exhument des rancunes funèbres, une chorale de sanglots chantonne nos afflictions, transporte nos fardeaux, fredonne nos désolations. La haine nous fait du pied, nous propose une danse mortelle et rythmée au tempo de nos vengeances. Si les rêves de paix sommeil certainement chacun. On peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Comment raisonner face aux soldats de la démence? La peur nous fera prisonniers des ennemis de la clémence. Architecte de la destruction, maçon de l'horreur, cultivateur d'abominations qui confondent beauté et laideur, mémoire et aigreur, désir de justice et fureur. Tire sur la foule des balles aussi aveugles que leur cœur, plongé dans l'excès, noyé dans la vanité. Les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Les folies de la colère nous révèlent à nous-mêmes. On sait ce que l'on tolère qu'une fois face à l'extrême. Un seul tonnerre de violence assourdit nos beaux discours et nous voilà prêts à jeter la France dans la guerre civile d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la division, du commerce, de la terreur. Comment faire sombrer la nation dans la déraison puis l'horreur? Des chefs d'orchestre sordides instrumentalisent nos peines. Depuis être cupides qui détestent plus qu'ils n'aiment. Ceux qui désirent l'affrontement souvent ignorent sa réalité. Leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Ils soufflent sur des braises, planqués dans leur confort. Nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. Ils pensent la guerre, mais ne porteront jamais le treillis. Quand on manquera de cimetière, ils fuiront le pays, le laissant livrer à lui-même. À feu, à sang, derrière les couleurs du drapeau, se cachent ses ennemis de la nation. Semeurs de troubles, fourbes, névrosés, cracheurs de venin, au cœur sclérosé. Racistes décomplexés qui conceptualisent la haine, mais même les nazis avaient leur propre intellectuel. Tirons des leçons du passé. Y a même pas 100 ans, l'impensable est devenu vérité. Leurs paroles mettent des mots sur ce que leur cœur souhaite en secret. Ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués. Lorsque les musulmans seront brusqués, exécutés pour leur choix. Lorsque les musulmans seront parqués, exécutés pour leur foi. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain. En cela, les terroristes et eux poursuivent le même dessein. À bout de souffle, la France est en apnée. Maintenant on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bienfait pour en apprécier la valeur? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur? Dans ce monde globalisé, Bagdad n'est plus si loin. Et nous n'avons qu'effleuré l'horreur de leur quotidien. Brutal est le réveil de nos années d'insouciance. Combien de peuples s'éveillent chaque jour sous l'état d'urgence, empli de compassion. Quand la terreur nous assiège, on a d'autres préoccupations que de jouir de nos privilèges. De la Libye à la Syrie, ils reproduisent les mêmes erreurs. Leur politique extérieure nous fait saigner de l'intérieur. Expansion guerrière, à peine maquillée. Ambition pécuniaire sous couvert d'humanité. Condamnation arbitraire, puis silence injustifié. Utilisation vulgaire du concept de liberté. Pour la survie des vôtres, est-ce que la mort des autres est vitale? Des frappes chirurgicales, à bon, sur un hôpital. Comment condamner ici, tout en finançant là-bas? Nous sommes otages de vos jeux de pouvoir que vous faites passer pour des combats. Du sang sur les mains, du pétrole dans la rétine. Les prétendus droits sur humains. Chaque jour ils les piétinent, soutiennent ceux qui les combattent, combattent ceux qu'ils soutiennent. Démagogues, bureaucrates, politiques schizophrènes.
On vient d'écouter Kerry James, Vivre ou mourir ensemble, et vous êtes toujours sur le Canu Info confiné du lundi sur le 102.2. On continue avec la rubrique locale et on commence par une info sur les fachos turcs qui font la chasse aux Arméniens à Dessine.
Ouais, mercredi soir à Dessine dans l'Est lyonnais, scène assez hallucinante hein, à la suite des affrontements qui se sont déroulés le matin même au péage de Vienne. Au moins 250 ultranationalistes turcs ont défilé avec des drapeaux turcs en scandant notamment « Et ils sont où les Arméniens ? On va tuer les Arméniens ». Il faut savoir qu'à Dessine, il y a une forte communauté arménienne. En ce moment, les tensions sont exacerbées à cause de ce qui se déroule dans le Haut-Karabakh. On vous en a déjà parlé plusieurs fois entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Azerbaïdjan soutenu par la Turquie contre l'Arménie. Mais ces tensions sont bien plus lointaines et profondes et remontent entre autres hein, au génocide arménien de 1915 organisé par l'Empire ottoman. Génocide toujours nié par l'État turc. Tensions qui ont pris une certaine ampleur avec Erdogan et son virage toujours plus nationaliste de ces dernières années. Pendant cette démonstration de force à Dessine puis à Vienne, mercredi soir, plusieurs membres de la communauté arménienne ont été agressés physiquement. Derrière tout ça, et de manière non voilée d'ailleurs, on trouve les Loups Gris, organisation néofasciste turque, pro-Erdogan, qui se comporte comme une véritable milice, à la fois contre les Arméniens, mais aussi contre les Kurdes et d'autres. Ils sont présents à Lyon et dans le Rhône, ils sont très présents même. De toute manière, Lyon est probablement la ville de France où il y a le plus de ramifications avec l'AKP, le parti islamo-conservateur d'Erdogan, qui a vraiment un puissant réseau d'influence. Ce qui donne probablement sentiment d'impunité aux loups gris et assimilés. Loups gris qui, rappelons-le, sont bien des fascistes qu'il faut également combattre.
Et puis l'expulsion du collège Maurice Sève.
Cette semaine a eu lieu l'évacuation, pour ne pas dire l'expulsion, du collège Maurice Sève qui abritait depuis 2 ans maintenant entre 150 et 200 personnes sans logement ni hébergement. Pour rappel, ce squat avait été ouvert pour abriter des mineurs étrangers isolés que la métropole avait abandonnés à leur sort, alors que c'est son rôle légal de les mettre elle-même à l'abri. Ces enfants campaient sur les pentes de la Croix-Rousse dans des conditions indignes, harcelés par la police qui les obligeait à changer régulièrement de lieu de campement. Lors du procès du squat, un délai d'un an et demi avant expulsion avait été obtenu. Le tribunal voyant clairement que la présence de jeunes exilés dans ce lieu ne posait pas trop de problèmes et que par ailleurs la métropole n'avait rien à leur proposer. Le bâtiment du collège Maurice Sève appartient d'ailleurs à la métropole et au lieu de remercier les centaines de personnes habitants et soutiens qui, en occupant le lieu pendant 2 ans, lui ont donné l'occasion de maintenir une certaine paix sociale à peu de frais, avec économie de gestion de centres d'hébergement et de paix de travailleurs sociaux, un premier gros coup de pression a eu lieu le 6 octobre avec l'envoi d'une dizaine de camions de police, d'un drone et de chiens pour procéder au recensement des habitants. Le 28 octobre, l'expulsion, que dis-je l'évacuation, devait être un simple déménagement en accord avec les habitants et associations. Il faut croire que les flics sont de plus en plus polyvalents parce qu'ils étaient environ 150 à intervenir en tant que déménageurs cette semaine. Mais ils n'ont pas partagé de bière et de pizza avec les habitants une fois les meubles installés dans leur nouvelle maison. Ah oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas de nouvelle maison. Alors que ce déménagement était prévu depuis un moment, ni la métropole en charge des mineurs isolés, ni la préfecture en charge de l'hébergement des demandeurs d'asile et de l'hébergement d'urgence de droit commun ne s'étaient organisés pour que les habitants aient des solutions pérennes d'hébergement. Plus de 180 personnes ont donc été hébergées les premiers soirs en hôtel, avant, espérons-le, l'hébergement d'environ 70 personnes par l'État et de plus de 100 personnes, dont une soixantaine de mineurs en attente de reconnaissance de leur minorité, par la métropole. Évidemment, au milieu, une quarantaine d'habitants sans papier ont préféré ne pas croiser les services de la préfecture et se retrouvent aujourd'hui de nouveau à la rue. Pas de quoi se vanter pour la métropole donc, qui ne fait que respecter la loi en prenant en charge les mineurs en attente de reconnaissance de leur minorité, ce qu'elle n'avait pas fait pleinement jusqu'à présent. Pourtant, la nouvelle majorité Europe Écologie Les Verts se vante dans un communiqué d'être, contrairement à Colomb, une municipalité humaniste et nous dit « La nouvelle majorité écologiste et de gauche réaffirme ainsi ses valeurs d'accueil et sa détermination à lutter contre l'habitat indigne et le sans-abrisme. La métropole annonce faire plus que la loi en hébergeant 100 personnes de plus que la norme, mais ces 100 personnes dormiront à l'hôtel, ce qui permet ensuite en toute légalité de les remettre à la rue en disant que c'est la faute de la préfecture, une fois que les soutiens et médias regarderont ailleurs. Et ce n'est pas un relogement global et sans condition de l'ensemble des habitants qui est organisé, mais bien une gestion individuelle de l'hébergement dans les conditions légales prévues selon la catégorie administrative. Évacuer un des plus gros squats de la métropole à 3 jours de la trêve hivernale et quelques jours avant le reconfinement, c'était en tout cas pas vraiment ce qu'on entendait par être déterminé à lutter contre l'habitat indigne, le sans-abrisme et pour l'accueil. Les maires déterminés pourraient plutôt utiliser leur pouvoir de police pour prononcer la réquisition de locaux vacants nécessaires au logement des personnes ou des familles sans-abri se trouvant dans une situation d'urgence, comme le permet la loi. Faciliter l'accès aux formations ou encore créer des passeports municipaux pour protéger les exilés en cas d'arrestation, comme cela s'est fait dans d'autres villes.
On passe maintenant à la citation de la semaine.
S'il n'y a pas de lien entre immigration, islam, terrorisme, moi, je ne sais plus comment on réfléchit.
C'est bien Éric Zemmour qui avoue ses limites intellectuelles et ça explique beaucoup de choses. Ce qui est flippant, c'est qu'en ce moment, à la télé, tout le monde semble être atteint des mêmes carences. Et puis voilà l'interview de la semaine. On écoute la famille Didier.
Alors oui, on a eu l'occasion de s'entretenir avec la famille de Idir. Idir, c'est ce jeune homme de 22 ans qui a été tué au Mitar à Korba le 9 septembre dernier. L'administration pénitentiaire prétend que c'est un suicide. Il y a vraiment de nombreux éléments qui montrent que ça s'est probablement pas passé comme ça. Donc on a eu l'occasion de pouvoir parler à la maman d'Idir, qui était entourée du collectif Justice et Vérité pour Mehdi, et aussi de la maman de Bilal, qui avait été tuée, lui, au Beaumet en 2017. On écoute tout de suite leur histoire.
Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, hein, si vous l'acceptez, un petit peu de lui, et quel âge il avait, depuis combien de temps il était incarcéré, par exemple, et dans combien de temps il devait sortir, quand les événements se sont déroulés?
Idir, il avait 22 ans. C'est un jeune homme qui était bon vivant, joyeux. Il aimait vivre, il aimait comme les gamins, comme les jeunes de son âge. Et il a été incarcéré à Korba. Ce que j'ai dans ma tête, c'est qu'il allait sortir, il est resté que 15 jours de sa sortie. Okay. Et voilà, et jusqu'à ce qu'ils nous ont contactés pour nous dire la mauvaise nouvelle, quoi.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé ce jour-là au Mitar? Enfin, quelles sont les informations que vous avez eues?
D'après les témoignages des détenus, d'après la vidéo qui a été diffusée, Idir, il était maltraité par les surveillantes. Il avait été frappé. Il a été placé en quartier disciplinaire 3 jours avant. Ils lui ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau. Il a fallu qu'il boive dans les toilettes, quoi.
Ok, ça du coup c'est des informations que vous avez eues à travers les témoignages des autres détenus. Est-ce que lui, vous étiez un peu en contact avec lui et vous avez fait part de ses maltraitances?
Oui, tout le temps. Et tout le temps je lui ai dit, c'est pas grave mon fils, respecte-les quand même, tu vas pas tarder à sortir et tout. Il me fait, oui maman, mais il me pousse au bout, quoi.
Alors, les autres détenus qui ont témoigné, est-ce que vous pouvez nous dire le contenu de leur témoignage, s'il vous plaît?
Ils m'ont dit, c'est vrai, ils nous traitent comme des mots. Mon fils, il avait la rage dedans. Et il n'a pas arrêté de leur demander un truc pour le calmer ou l'emmener chez le dentiste. Il a fallu qu'il arrache sa dent tout seul.
Bon, et du coup, la version de l'administration pénitentiaire, vous l'avez su quand et qu'est-ce qu'elle dit, elle?
Ils m'ont dit qu'il s'est suicidé et on ne savait pas pourquoi. Ils m'ont dit qu'il n'avait pas de... Il n'avait pas de signe de suicidaire, c'est pour ça qu'on ne l'a pas surveillé.
J'ai cru voir qu'il y avait un des détenus qui était en mesure de témoigner, qui avait lui aussi été mis au Mitar.
Oui, il était son voisin de Mitar. D'après lui, ils sont venus d'abord chez Yassine, c'est chez lui. Ils l'ont tapé et tout, et mon fils, il a pris sa défense, et ils ont lâché le détenu, ils sont partis chez mon fils, ils l'ont tabassé, ils l'ont assassiné, et après ils sont partis, et le détenu, il m'a dit quand ils sont partis, j'ai appelé Idir, tout de suite derrière Idir, et il n'y a pas signe de vie. Il m'a dit, je pensais qu'ils l'ont emmené, ou ils lui ont changé de cellule, et finalement il est mort. Après sa sortie du Mitar, je crois 2 jours ou 3 jours après, il est sorti, le détenu, il est sorti du Mitar, il a commencé à parler. Il a parlé avec le chef du bâtiment, il a parlé avec tout le monde, quoi. Comme quoi les gardiens et les surveillants, ils ont tué Idir. Tout de suite après, ils l'ont mis encore au Mitar. Et quand par hasard, ils l'ont mis dans la cellule là où il est mort, mon fils.
Oui, donc ils essayent de le faire taire lui aussi.
Voilà.
Alors, depuis que vous êtes au courant, depuis cet événement tragique et dramatique, cet assassinat, qu'est-ce que vous avez essayé de faire, vous, ses plus proches, sa famille, ses amis, pour contester la version de l'administration pénitentiaire et essayer de révéler la vérité et qu'elle éclate au grand jour?
J'ai posé plainte. Déjà, tout de suite après la vidéo, je suis partie à la gendarmerie pour poser plainte, pour protéger le témoin. Et après, la gendarmerie, ils sont partis voir ce qui se passe, ce qu'il y a. Et ils ont trouvé effectivement qu'ils lui ont coupé l'eau, ils lui ont coupé l'électricité. Après ça, l'enquête, elle est en cours.
Vous avez essayé aussi un peu de mobiliser, il y a eu une marche blanche, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça?
On a organisé la marche blanche le 11 octobre.
Combien il y a eu de personnes à peu près à cette marche?
150 personnes, 150-200.
Et du coup, l'administration pénitentiaire aujourd'hui, elle répond quoi à votre mobilisation? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous écoute et est-ce que vous avez l'impression que l'enquête elle avance ou...
Pas du tout. Depuis la mort de mon fils, j'ai pas entendu parler d'eux. Ils m'ont juste annoncé le soir comme quoi mon fils il s'est suicidé. Depuis, j'ai pas entendu parler d'eux.
C'est une procédure judiciaire qui est longue. Pour certaines familles, au bout de presque 20 ans, ils sont encore dans le combat. Ça veut dire que c'est clair que c'est long. C'est-à-dire que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les familles, elles pensent pas forcément à aller travailler directement ou à subvenir à leurs besoins. D'abord, elles veulent subvenir à la vérité.
Qu'est-ce que on peut dire là aux auditeurs, aux auditrices de la radio? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous soutenir?
Déjà, je fais un appel à témoins.
Bah, du coup, je vais faire l'appel à témoins. Je lance un appel à témoins que toutes les personnes qui ont entendu ou vu quelque chose pendant ou avant son décès se manifeste pour nous aider à comprendre et à savoir pourquoi aujourd'hui mon fils n'est plus de ce monde. Je suis la maman de Hitler. J'ai perdu mon fils et le deuil, je ne le ferai jamais. N'attendez pas que cela vous arrive pour vous manifester. On ne fait pas attention à ces décès tant que cela ne nous est pas arrivé. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre pourquoi aujourd'hui on m'a privé de mon fils. Ça, c'est un message de la part de la maman d'Idir.
Tous les samedis, on a des rendez-vous, un comité, et que toutes les associations qui militent pour les détenus et qui militent pour les droits de l'homme et qui militent contre les injustices, eh ben, c'est les bienvenus.
Il y a une pétition à signer aussi, qui est sur notre page Facebook. La page Facebook, c'est Association Espoir et Solidarité.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup pour vos témoignages. On invite donc nos auditeurs à aller voir la page Facebook de l'association. Et surtout, on lâche rien contre toutes les prisons et leurs matons.
Et on vous signale à l'agenda que l'ECG continue une partie de ses activités, à savoir la permanence droit des étrangers le mardi de 18h à 20h. Les marchés rouges les jeudis de 17h à 19h, les permanences droit du travail les vendredis de 14h à 18h, ainsi que la distribution alimentaire gratuite de 16h à 19h le vendredi aussi. Et a priori, les cours de français vont aussi perdurer. Ce sont les mercredis de 18h à 19h30 et les samedis de 18h à 20h.
Et on arrive à la fin de ce Canu Info du lundi 2 novembre 2020. Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.